Les chemins de la sagesse, une émission proposée par Michel Théron.
Michel Théron, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors nous continuons la lecture de votre livre sur les chemins de la sagesse publié aux éditions BOD. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la question des projections. Vous avez cité Diogène, ce philosophe grec qui avait détruit toutes les projections. Et nous nous sommes arrêtés en nous demandant, vous vous êtes demandé si nous pouvions détruire, bannir les projections que nous avons sur les autres. Que
voilà.
Devons-nous faire ?
Alors, par exemple, s'agissant des projections admiratives que nous faisons sur certains êtres, certaines sont inévitables. Celles que font les enfants, par exemple, vis-à-vis de leurs parents. Ils les admirent et ça permet de les structurer. Mais ces projections admiratives ne sont pas toujours une bonne chose. Beaucoup de nos admirations sont assez aveugles. Par exemple, vous voyez, Guylaine, un orateur qu'on nous aura préalablement vanté bénéficiera de notre part d'un virement naturel de crédit, d'une confiance ou d'une fiducia, c'est un mot latin qui veut dire confiance, et nous allons lui accorder cela spontanément. Mais s'il vient à nous dire n'importe quoi, par exemple volontairement, pour faire une expérience, pour voir comment nous réagirons, eh bien, nous serons bien tardifs à réagir. Alors j'imagine, voyez, les auditeurs, hein, ils présument que ce que je dis a de la valeur. Hein. Mais ils font une projection, pas admirative, mais enfin une projection
peut-être,
sympathique.
Sympathique.
Sympathique. Eh bien, si je m'avisais de dire n'importe quoi, il faudrait voir pendant combien de temps je pourrais, si vous voulez, continuer l'expérience.
Je crains que ça pourrait durer très longtemps.
Ah, c'est mon avis aussi.
Ouais.
Et alors, il y a un deuxième exemple qui m'est venu à l'esprit. Les projections admiratives que nous faisons lorsque nous entrons dans un musée. Eh bien, nous présumons que tout ce qui est exposé dans un musée bénéficie du prestige du lieu lui-même et donc doit avoir une valeur. Hein. Et nous pouvons alors admirer n'importe quoi, comme Marcel Duchamp l'a montré en exposant ces fameux ready-made, hein, l'égouttoir à bouteille, l'urinoir, la roue de bicyclette, etc. Hein. Et c'est un fait que très souvent dans l'art contemporain, n'importe quoi convient, comme on dit en anglais, anything goes, n'importe quoi convient. Alors, vous voyez, Guylaine, je pense qu'il suffirait, dans une telle exposition, que quelqu'un éclate de rire, hein, pour que, par contagion, tout le monde en fasse autant, étant enfin délivré de leurs projections admiratives, vous voyez. Ça serait une expérience à faire. Mais là encore, je suis de votre avis, je suis assez sceptique. Je ne pense pas que la chose soit possible parce que la déférence, le respect, le manque de confiance en nous-mêmes aussi est très grand. Hein, la peur de passer point B au sien. Hein. On se dit, par exemple, on a censuré à son époque Les fleurs du mal de Baudelaire en 1857 ou bien la même année Madame Bovary de Flaubert. Donc, je ne veux pas passer pour un B au sien et je vais tout gober, vous voyez.
Tout à fait.
Vous voyez, Guylaine, donc, je crois qu'il faudrait quand même être prudent, hein, et avoir plus de lucidité. J'ai vu que dernièrement, un artiste anglais avait détruit un tableau, justement, qui venait d'être vendu plus d'un million d'euros. Hein. Bon, c'est de ce qu'on appelle l'art conceptuel, c'est-à-dire faire réagir les gens, montrer qu'il y a une déconnexion complète entre le prix et la réalité de l'objet. En fait, nous consommons du vent médiatisé. Hein, voilà. Hein. Et tout cela, à la racine de tout cela, il y a toujours ces fameuses projections. Hein. Nous présumons que l'artiste a telle ou telle valeur que l'on nous inculque. Vous voyez.
Voilà. Donc là, il s'agit bien des projections admiratives, mais nous étions quittés aussi sur l'idée de parler de de la question de la peur qui serait déclenchée par les projections. Est-ce que vous voulez en parler maintenant ou est-ce que vous avez autre chose à nous dire en attendant?
La peur, bon, il y a les projections effrayées. Il y a différents types de projections. Hein. Les projections qui ont pour base la peur, hein, effectivement, ne sont pas, comme on dit, bonnes conseillères. Hein. Bon, la peur dévore l'âme, disait Fassbinder, le réalisateur et homme de théâtre allemand. Hein. La peur dévore l'âme. Bon, là aussi, c'est quelque chose devant quoi il faut faire le ménage, en quelque sorte, se délivrer un petit peu de cela. Mais alors, vous voyez, Guylaine, je termine ce chapitre sur les projections, en me disant que ce qui, est une bonne chose entre les êtres, c'est le dialogue qu'ils nouent. Hein, voilà, et la communication passe par la parole. Hein. Je me méfie, je vous l'ai dit, de certaines femmes que j'ai rencontrées qui me disaient « je veux être comprise à demi-mot hein, ». Ça me semble quand même très paranoïaque, ça. Hein. Bon, non, il faut être... Voilà, alors il faut parler. Alors, quand on parle, il ne faut pas présumer l'existence dans l'esprit de l'autre de choses qui n'existent pas forcément, vous voyez. Hein. On se dit, je pense qu'il ou elle pense que moi je dois penser, etc. Alors là,
Pensez qu'on adapte notre discours à ce qu'on suppose que l'autre va.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Parce que il se produit un phénomène de rétroaction ou de feedback. Hein. J'anticipe et dans mon esprit vont se produire des nœuds. Hein. Nœuds, c'est le titre d'un livre d'un psychiatre, Ronald Lang. Hein. Et je vais être paralysé, puisque la peur de me tromper va m'inhiber, et puis par rétroaction, je répète, feedback, la peur, etc. Hein. Alors là, dans ce livre, il y a des expériences personnelles, vous voyez, Guylaine. Il faut savoir
dans
les lire.
Dans votre livre,
oui,
n'est-ce pas dans, sur les chemins de la sagesse.
Ah oui, tout à fait. Oui,
Dans
mon livre, je me suis confié, bon, bien sûr, avec certains filtres, hein, mais je pense que beaucoup de mésententes entre les couples viennent de suppositions infondées que l'on fait sur l'autre. En fait, on imagine la pensée de l'autre à partir de la sienne propre. On présuppose des désirs qui n'ont en réalité pas été formulés. Et ensuite, il y a des récriminations hein, qui se basent sur de simples suppositions. Et des ruptures même, là c'est une expérience personnelle, peuvent survenir qui n'ont aucune base réelle. Par exemple, on peut être brutalement quitté par quelqu'un qui a supposé chez nous des pensées ou des désirs qu'en réalité nous n'avions pas. Par exemple, le désir d'une vie commune, alors qu'on est peut-être désireux de solitude. Ou bien le désir d'être materné et nourri, alors qu'on peut préférer, par exemple, l'éternel fiancé à l'épouse cuisinière, comme dans la non-demande en mariage de Georges Brassens, vous voyez. Alors, qui présuppose chez l'autre de telles demandes peut lui reprocher ensuite sa propre impossibilité à y correspondre. Mais ce sont des attentes qu'en réalité il a purement imaginées. Et ainsi se brisent des bonheurs qui auraient pourtant été, avec plus de réflexion et de prudence, possibles. Vous voyez ? Donc il ne faut pas projeter cela. C'est très dangereux. Alors, quelle est la solution, Guylaine ? C'est l'attention vraie au langage de l'autre.
Et pourtant, nous savons que c'est compliqué, la communication.
Ah, absolument.
Communiquer.
Absolument.
Vous connaissez la règle d'Albert Mehrabian, Michel ?
Ah non.
Des 3 V, vous la connaissez
pas ?
Ah non, je vais qu'est-ce que je suis heureuse
de
vous l'apprendre. Alors, c'est une règle qui est très bien connue des communicants. Et cette règle dit que le message qui est reçu par notre interlocuteur est constitué pour 7% de verbal, 38% de vocal et 55% de visuel. Donc vous voyez que ce qu'on pense dire, moi ce que j'entends dans cette règle, c'est que ce qu'on pense dire, formulé verbalement, est finalement pas retenu et c'est bien au contraire nos gestes, notre comportement qui va avoir du sens pour l'autre.
Oui, Oui, c'est vrai, c'est sûrement vrai. Mais quand même, je crois que le sage, puisque nous parlons de sagesse, c'est celui qui sait faire attention aux moindres paroles de l'autre et vraiment l'écouter attentivement. Hein. Donc, arrêtons de mettre entre l'autre et nous des écrans de projection, des écrans projectifs. Hein. Souvent, on veut faire bien à l'autre en pensant à quelque chose alors que ça ne marche pas, ça n'a pas été demandé. Vous voyez, ça n'a pas été demandé. Parfois, c'est à la source de beaucoup de manipulations secrètes. Hein. On se dit, je vais me l'attacher par tel ou tel comportement, mais tout ça n'est pas verbalisé. Il faudrait tout verbaliser. Et ça serait vraiment l'idéal. Alors, je ne pense pas, je suis d'accord avec vous, Guylaine, que la communication absolue puisse se faire entre les êtres.
Hein. Transparente.
Non, transparente. Ça, je ne pense
pas. Nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours clairs avec nous-mêmes.
Exactement.
Avec les autres, c'est encore une autre aventure.
Tout à fait. Vous savez ce que dit Maeterlinck à propos de Mélisande ? C'était un petit être mystérieux comme tout le monde. Hein. Voilà, nous sommes donc toujours parfois opaques à nous-mêmes. Hein. Mais enfin, si nous savons bien faire attention et écouter les autres, nous serons délivrés, alors c'est un autre thème, d'une tentation bien présente chez la majorité des hommes, qui est de vouloir juger les autres. Hein, voilà. Il ne faut pas être dans le jugement. Parce que quand on est dans le jugement, on va projeter, toujours les projections, chez les autres des normes et des comportements de vie qui en réalité leur appartiennent.
Hein. Mais est-ce que le jugement c'est forcément négatif ?
Bien, écoutez...
Juger, c'est toujours...
Vous savez, Guylaine, bien sûr, c'est le passage de Matthieu, chapitre 7, verset 1. Il ne faut pas juger.
Oui, voilà. Je vois que vous avez des béquilles, là, Michel.
Voilà.
Des béquilles bibliques.
Voilà, des béquilles bibliques. Il ne faut pas juger si on ne veut pas être jugé. Moi, en tant qu'agnostique, je suis absolument d'accord avec cette formulation. Au moins, avec la première partie. Il ne faut pas juger. Hein, il ne faut pas juger. Parce que... les gens qui sont dans le jugement n'ont pas de vision assez large des choses. Ils n'ont pas de vision synoptique, c'est-à-dire ils voient pas l'ensemble des tenants et des aboutissants d'une situation. Ils ont une vision, partielle.
Avec leur prisme.
Avec leur propre prisme. Hein. Et donc, ils n'ont pas la vision dialectique. Le dialecticien, disaient les anciens, c'est celui qui voit la totalité. Synopticos au dialecticos. Le dialecticien, il est synoptique, c'est-à-dire il a une vision synoptique, il voit l'ensemble. Hein. Mais en réalité, rien n'est blanc ou noir dans la vie. Hein. Et Dieu peut-être seul peut sonder les reins et les cœurs, vous voyez. Hein. Mais dans la vie, on ne sait jamais le tout de rien. Donc, il ne faut pas juger. Et il faut se garder justement de cette psychorigidité hein, du jugement. Mais souvent, nous sommes dans le jugement. Mais alors, comme vous le savez, Guylaine, je pratique souvent l'antilogie, c'est-à-dire j'essaie de voir le contraire de ce que j'ai dit. Cette propension au jugement, c'est une attitude intellectuelle. Mmh. Et donc là, c'est une projection néfaste, hein, dont il faut se délivrer. Mais il y a une projection utile, c'est la projection affective, ce que l'on appelle l'empathie.
Mmh. L'empathie. Se mettre à la place
voilà,
de l'autre.
Voilà, se mettre à la place de l'autre, c'est pas du tout la même chose que ce dont nous parlions à l'instant. Hein. C'est une projection positive et l'on reconnaît par là que la projection a bel et bien deux aspects opposés. Hein. Alors, par exemple, les spécialistes de l'étude des animaux, les éthologues, ceux qui scrutent leur comportement, disent que l'animal lui-même est capable d'empathie. Hein. Il est capable d'abord de collaboration avec les autres animaux. Et si l'animal est capable d'empathie, alors à plus forte raison nous-mêmes. Hein, si l'animal peut connaître l'altruisme et l'entraide, eh bien, pourquoi pas nous ? Alors, l'empathie va générer quoi ? La compassion, qui est proprement le fait de souffrir avec. Compati, hein. Donc, et on a constaté que c'est d'empathie que manquent tous les grands criminels, qui sont des monstres froids. Hein.
Là, c'est quand même maladif, ça.
Ah, absolument, absolument.
Ce sont des psychoses graves.
Voilà. Donc, je crois que l'empathie, c'est une très très belle chose. Alors, on l'attribue la plupart du temps souvent plutôt aux femmes qu'aux hommes. Peut-être a-t-on raison, hein, parce que la femme étant en prise avec la vie, puisqu'elle la transmet, a plus de propension à cette empathie, mmh. hein, peut-être. Je suis très prudent, Guylaine, là-dessus. Je marche sur des œufs parce que...
Vos mots minimisent votre pensée, voilà. Renforcée par votre
J'ai
geste.
J'ai peur que se lève la grande cohue des féministes, hein, qui disent, mais non,
l'empathie n'est pas genrée.
Voilà, tout à fait. Alors, je suis très prudent. Hein. Je me méfie, bien sûr, d'une pensée essentialisante, c'est-à-dire la femme en général est empathique, etc. Mais malgré tout, bon, bah, je dis très prudemment que, en tout cas, l'empathie me semble une bonne chose. Mmh. Et alors, une bonne chose, mais comment dire,
Un petit bémol,
voilà,
quand même. Elle a aussi son contrepoint, l'empathie.
Voilà. Si nous avons trop d'empathie, tenez, prenez le monde du soin. Hein. Mmh. Eh bien, une infirmière, un médecin ou un chirurgien qui aurait trop d'empathie n'aurait pas assez la froideur professionnelle pour bien opérer. Vous voyez, faire une piqûre ou bien réussir une opération chirurgicale, etc. Beaucoup de médecins ne veulent pas soigner leurs proches, par exemple, parce qu'ils sont trop proches par la sensibilité. Mmh. Donc, il faut aussi, de temps en temps, donner congé à l'empathie, mais enfin la mettre entre parenthèses dans le cas que je viens de dire.
Hein. Je crois que vous dites qu'il faut une empathie sélective.
Voilà, une empathie sélective. Ne soyons pas angéliques et ne mettons pas l'empathie comme la solution à toute chose. Et un dernier point sur ce chapitre, puisque nous terminons le chapitre projection de cet ouvrage. Le dernier point consisterait à dire que qui est-ce qui connaît beaucoup l'empathie? Eh bien, vous voyez, c'est l'artiste.
Et pourquoi?
Alors, pourquoi? Parce que l'artiste, il n'a pas un moi fort, comme on l'imagine, mais il a un moi labile, un moi souple, un moi ondoyant, de façon à épouser toutes les postures de la vie, et il va, s'incarner dans tout ce qu'il voit. Par exemple, il y a un poème de Baudelaire, où Baudelaire dit qu'il suit les petites vieilles dans la rue, il s'appelle les petites vieilles, non pas pour leur dérober leur sac, bien sûr, mais pour imaginer quelle va être leur vie, ou quelle est leur vie, vous voyez. Hein, voilà. Donc l'artiste se projette spontanément dans tout ce qu'il voit, et ainsi chez Balzac aussi on le voit. Hein, donc il y a une dépossession du petit moi pour entrer dans la multiplicité des vies. Donc c'est une qualité pour justement l'artiste qui peut ainsi vivre par procuration. Hein, entrer dans la vie des autres, comme Asmodée qui entrait dans les maisons en soulevant le toit des maisons. Hein. Alors, pour conclure, avant de respirer un peu musicalement, je dirais, vous voyez, Guylaine, que l'empathie, elle est comme la langue... La projection est comme la langue d'Ésope, hein, la meilleure et la pire des choses. Hein. Et donc, la vérité, c'est que toute question a plusieurs facettes et que la sagesse consiste à se persuader de ce fait.
Avec vous, Michel Théron, nous continuons la lecture de votre livre sur les chemins de la sagesse. Nous venons de terminer, et oui, nous l'avons terminé, le chapitre sur les projections. C'était un gros chapitre, c'est important dans...
Ah oui, c'est une notion
essentielle. Sur un chemin de la sagesse, il faut, comment dire, gérer ces projections-là, savoir où est-ce qu'elles se placent en nous et comment on les maintient à bonne distance.
Exactement.
Dans ce prochain chapitre, maintenant, nous allons aborder le regard des autres. Là encore, il s'agit de comment être en communication la plus satisfaisante pour nous tous avec cette donnée-là, le regard des autres.
Voilà. Alors, pourquoi vivre sous le regard des autres ? Ou plutôt, devons-nous attacher de l'importance au regard des autres ? Je pense que si nous vivons sous le regard des autres, c'est que nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes et que nous cherchons, nous mendions, nous quémandons l'acquiescement d'autrui qui nous donnera caution de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et nous permettra de nous accepter. Et alors, on ne vit qu'avec l'approbation de ce regard et à l'inverse, si ce regard nous est hostile ou si nous le supposons hostile, toujours par projection, Guylaine, toujours par projection, si on suppose un regard hostile, on va se sentir écrasé. Un mauvais regard d'autrui va nous rejeter au néant. Alors, l'éducation, il y a souvent sa part. Moi, je regarde souvent dans les jardins publics, quand je m'assieds sur un banc, je regarde autour de moi et je vois parfois des mères dans les relations qu'elles ont avec leurs enfants. Souvent, elles les corrigent ou simplement les menacent de correction avec cette expression « je vais te donner une fessée devant tout le monde ». Vous voyez, devant tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant.
Pour générer une honte.
Voilà, pour générer une honte. Et donc là, les mères, comment dire,
Utilisent.
Elles sont... Écoutez, Guylaine, dans le monde des animaux, on ne voit jamais une vache qui va donner des coups de corne à son veau, quand le veau s'est étalé dans une mare boueuse. Mais nous voyons souvent une mère corriger sa fille ou son fils parce qu'il a sali ses beaux habits en tombant dans la flaque, vous voyez. Donc, je dirais que cette mère se comporte de façon inférieure à la façon dont la vache...
mère vit en société et la vache vit dans les pâturages.
Exactement. Parce que quand l'enfant, il s'est sali, d'accord, mais peut-être qu'il s'est fait mal aussi. Donc, au lieu de dire, tu as sali tes beaux habits du dimanche, là, je trouve que certaines mères perpétuent ce qu'on pourrait appeler le massacre des innocents. Toujours référence biblique, vous voyez, massacre des innocents. Je vais te corriger devant tout le monde. Ça veut dire, ta conduite est répréhensible et pense à ce qu'en penseraient les autres. Et alors, souvent, les mères font appel à cette notion menaçante qui est le ridicule. Le ridicule. Songe à ce que les autres vont penser. Donc, il n'est pas étonnant que l'enfant ensuite intègre ces avertissements et ait peur, avant de faire quoi que ce soit, de ce qu'en penseront les autres. Et comme l'adulte est le fils de l'enfant qu'il a été, cette survalorisation du regard des autres va le suivre toute sa vie. Alors, les plus attentifs à ce regard sont les adolescents. On dit que les adolescents sont libres, spontanément épanouis, ne sont pas conformistes. Je pense que c'est tout le contraire. Alors vous me contredirez, Guylaine, je cherche la contradiction. Il me semble que rien de plus conformiste en général... n'existe sinon un adolescent. L'adolescent ressent un mal-être et il veut peut-être inconsciemment oublier ce mal-être en faisant corps avec les autres, et ce comportement grégaire va l'amener à chercher pour tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait la validation des autres membres du groupe. Et là, le regard des autres est tout puissant puisqu'il juge toutes les conduites. Alors, bien sûr, je fais exception de certains adolescents solitaires et introvertis qui ne se reconnaîtront pas dans cette description. C'est pour ça que je vous demandais si...
J'approuve et j'apprécie ce que vous dites. Oui. Je trouve que, là encore, on voit que la puissance du comportement non-verbal, le regard sans aucune parole, est aussi puissant qu'une parole de mépris.
Voilà. D'où l'importance accordée par beaucoup d'adolescents au respect qu'on leur doit, respect. Il m'a mal regardé, voilà.
C'est ça.
Il m'a mal regardé.
Il m'a injurié en me regardant d'une façon qui ne me convient pas.
Il m'a mal regardé. Alors, ce sont des antiennes dans beaucoup de groupes dont ils font partie, c'est-à-dire des mantras. Il m'a mal regardé, il m'a manqué de respect. Et je suis aussi frappé de l'expression par laquelle les adolescents définissent maintenant une situation qui est dévalorisante pour eux. Ils disent la honte. La honte, vous voyez, hein. Alors comment mieux dire que c'est bien le regard du groupe qui constitue le tribunal suprême, vous voyez, la honte.
Disons, dans votre chapitre sur le regard des autres, vous analysez le regard sous deux aspects, le sens figuré et le sens propre, au fond. Et le regard, dans certaines cultures, ce n'est pas regarder quelqu'un dans les yeux, ça a du sens que nous n'avons pas nécessairement en Occident.
Absolument.
Vous avez ces deux aspects dans ce chapitre-là, à la fois le sens figuré, le regard que les autres portent sur vous d'une façon intellectuelle,
oui,
on va dire.
Et la considération.
Et la considération, voilà.
Voilà.
Oui, et oui. Le simple fait de regarder vraiment avec les yeux.
Voilà. Alors, beaucoup d'adolescents, bien sûr, ne parlent pas d'honneur, car ils n'ont peut-être pas ce vocabulaire, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. On fait d'habitude grand cas de cette notion d'honneur. Et elle est pourtant, à mon avis, très intéressante à analyser, parce qu'elle est intrinsèquement aux antipodes, à l'opposé de la sagesse. Alors là, les auditeurs vont peut-être être surpris, vont se dire, mais de quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? L'honneur, quelque chose de positif, qu'il faut valoriser, hein. Eh bien, à mon avis, c'est exactement le contraire. L'honneur, c'est la soumission absolue à sa propre réputation, c'est-à-dire au regard des autres, à ce que les autres pensent de nous. Hein. Et là, je commence par les textes classiques et les manuels scolaires qui les présentent. Je pense par exemple au Cide de Corneille, que l'on étudie en classe, en collège, je pense, en classe de 4e. Donc le héros, Rodrigue, tue le père de celle qu'il aime, Chimène, hein, tout simplement parce que le père de Chimène a souffleté son propre père. Ainsi, Rodrigue venge son honneur, qui est en fait celui de son père, et cet honneur n'est que sa propre réputation, c'est-à-dire l'opinion que ceux de son rang peuvent avoir de lui. Et Rodrigue va même jusqu'à dire à Chimène qu'il a dû tuer son père pour être digne d'elle. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, hein ? Qu'il m'aima généreux, me haïrait infâme, vous voyez ? Je t'ai fait une offense et j'ai dû m'y porter pour effacer ma honte et pour te mériter. Vous voyez? Tenez, le voilà le mot honte, hein.
Oui.
La honte dont les adolescents parlent, hein. Au fond, vous voyez, Guylaine, je pense que s'il n'y avait pas la langue rhétorisée de Corneille qui est très éloignée de leur monde, hein, les jeunes, aujourd'hui, surtout les jeunes des banlieues, comprendraient tout à fait l'attitude incarnée dans cette pièce, hein. Il m'a mal regardé.
Absolument.
Il m'a manqué de respect, etc. Donc, je vais riposter en me vengeant et je vais rétablir ma réputation aux yeux des autres. Hein. Ça, c'est purement instinctif, animal, comme comportement immédiat aussi, totalement irréfléchi. Je préserve mon territoire de qui voudrait empiéter sur ce territoire. Comme on dit, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Alors, les manuels scolaires, hein, à commencer par la Bible...
La Gare des Michards.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Hein, comme il y a le Tarn-et-Garonne, la Gare des Michards, Laurel et Hardy, etc. Vous voyez, hein. Donc, voilà. Eh bien, ils nous disent quoi, la Gare des Michards? Ces inspecteurs généraux de l'université, qui sont les évêques, en quelque sorte, de l'université, si vous voulez. Hein. Alors, ils nous disent, admirez l'élan de la jeunesse qui habite notre héros, hein. Et ils ne mettent jamais en question cette notion d'honneur qui vient de notre chevalerie médiévale. Ils la trouvent non seulement normale, mais exaltante, et ils glorifient celui qui devient ensuite le tueur de mort, hein, c'est-à-dire Matamor, hein. Voilà, Matamor, hein. Bon, Matamor. Il ne voit pas que la pièce, elle est machiste. Hein. C'est un machisme évident qu'elle contient. Et dans le fameux « Rodrigue a-tu du cœur ?», sans doute faut-il comprendre autre chose que le cœur. Rodrigue, est-ce que tu en as? Vous voyez,
oui.
Hein, voilà. C'est ça, je vous vois rire. Voilà. Hein.
Ouais.
Donc, et alors je dis, Rodrigue disait « Qui m'aima généreux me haïrait infâme ». Moi, je dis « Qui m'aima généreux me haïrait en femme, hein, si, vous voyez, si j'étais une femme. Vous voyez le machisme, hein.
Ouais.
Alors, vous voyez, moi, je suis un ancien professeur de lettres, je suis à la retraite, je suis un ancien professeur de lettres, mais je suis irrité beaucoup par ces manuels scolaires qui véhiculent une idéologie qui n'est pas problématisée. Et cette notion d'honneur me semble
centrale,
mais en faire partie. Mais il faut la problématiser. Mmh. Beaucoup d'œuvres ont comme ressort l'honneur. Hein. Je pense par exemple à des films policiers, par exemple, hein, où le bandit peut bien se comporter comme une vraie crapule envers ceux qui ne sont pas de son rang, mais il respectera les points d'honneur. Je pense au film de Jean-Pierre Melville, Le Deuxième Souffle, hein, où l'honneur du truand assassin de policiers, froidement, hein, se réduit à ne pas donner ses complices. Voilà. Donc la forme subsiste, mais le fond est abject. La mafia aussi italienne se nomme elle-même l'honorable société. Donc l'honneur en son sein est respecté. Sur certains points, par exemple, on ne tue pas le vendredi, parce que c'est le jour de la crucifixion du Christ, hein, mais on peut tuer les autres jours. Et au Japon aussi, le code d'honneur des gangsters, qu'on appelle les yakuza, hein, est parfois comparé à celui des samouraïs, c'est-à-dire Bushido. Hein, vous voyez, le code d'honneur. Mais non, moi je crois que cet honneur doit être mis en question. L'honneur est un... Vous parliez de culture, à juste raison, Guylaine. L'honneur est un composant essentiel de certaines cultures. Il y a des crimes d'honneur, par exemple. Celle qui n'aime pas celui qu'il faut qu'elle aime en vertu d'un mariage arrangé et qui se donne à un autre, ou bien simplement qui a été victime d'un viol, on la tue pour venger l'honneur de la famille. L'honneur. Alors, vous voyez, le camp, dira-t-on, la pression du groupe l'emporte sur les aspirations de l'individu. Et la phallocratie aussi. Hein. La femme est un territoire objet de possession masculine sur lequel n'importe qui ne peut pas pénétrer. Alors là, j'en parle avec confiance parce que je sais que les féministes à l'écoute seront de mon avis.
Craignez leur foudre sinon.
Oui. Mais là non. Hein.
Vous êtes tranquille.
Voilà. Alors, je sais bien que rares sont ceux qui mettent en question cet honneur, l'honneur chevaleresque, qui osent prendre, par exemple, l'idéologie du Cid pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de l'infantilisme machiste, hein, que l'on croit bon d'inculquer encore à nos élèves de quatrième. Je crois qu'il faut se méfier de l'idéologie des manuels scolaires. Molière aussi, hein, au nom du ridicule, qui est une valeur de représentation, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, va dévaloriser quiconque ne se soumet pas à la norme choisie par la société. À la, la doxa, c'est-à-dire l'opinion courante. Hein. Alors, on admire la sagesse de cette position, alors que souvent, la condamnation de quelqu'un au nom du ridicule n'est qu'une incapacité à le comprendre.
Mais est-ce que c'est pas quand même des enjeux de société qui sont donnés là?
Si, tout à fait. Oui. Mais cette comédie, je l'appelle fascisante, la comédie moliéresque. Heureusement, attention, là je suis très... Molière n'est pas que cela. Hein. Donc j'ai bien conscience que chez Molière, il y a des gouffres vertigineux qui sont passionnants à explorer. Mais condamner quelqu'un au nom du ridicule, Alceste par exemple dans Le Misanthrope, hein, ça me semble une attitude fascisante. Un homme politique avait dit autrefois à son adversaire « Vous avez tort parce que vous êtes minoritaire ». Eh bien, c'est le propre d'une attitude vraiment fasciste, hein, ou fasciste. Hein. Donc, de même, il y a un côté fascisant de la comédie qui exclut tout déviant social. Heureusement, Molière ne l'incarne pas toujours. Alors, ne confondons pas non plus l'honneur avec les marques d'honneur. Hein. Ça ne signifie pas toujours grand-chose que d'être honoré, puisque ça ne veut pas dire qu'on soit honorable, vous voyez. Hein. On n'est pas forcément en bonne compagnie si on est honoré. Quand le rouge ne monte pas au front, parfois il s'arrête à la boutonnière, vous voyez. Parfois les honneurs déshonorent. Hein. Donc, quand on est honoré socialement, on n'est pas sûr d'être en excellente compagnie. Mmh. Alors, vous voyez ce qu'il en est de ces valeurs de représentation qui sont soumission au regard des autres ou au groupe auquel on appartient. Donc, le sage fera bien de s'en persuader et de se garder de s'y soumettre. Eh bien, voilà, je crois que l'on peut dire à suivre.
À suivre, le regard des autres.
On a allumé une mèche, là, pour critiquer la notion d'honneur. J'espère que cela fera son chemin jusqu'à la prochaine émission.
Je n'en fais aucun doute. Merci Michel, à bientôt.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.